débordement.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Débordement, l'émission d'écologie politique de Radio Pulsar, un rendez-vous mensuel pour partager des clés de compréhension sur les situations écologiques et sociales du Poitou autour d'un sujet par mois. En plateau avec moi comme d'habitude, je suis avec Anaïs. Salut Anaïs.
Salut.
Et ce mois-ci, on aborde un sujet incontournable pour l'écologie dans le Poitou, les bassines ou méga-bassines, réserves de substitution, voire mares. Tout dépend de qui en parle. On en discute pour une bonne raison, c'est que le mois dernier, une décision très attendue est tombée, celle de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, une décision qui juge illégale quatre bassines du Marais Poitevin, dont la célèbre bassine de Sainte-Soline, connue du grand public depuis les manifestations d'octobre 2022 et mars 2023. On le rappelle brièvement, une bassine, c'est une réserve artificielle d'eau géante. En moyenne, ça fait 8 hectares, ça représente une dizaine de terrains de foot. Une réserve plastifiée et imperméable qui se remplit principalement en hiver par pompage directement dans les nappes d'eau souterraines. Les bassines sont présentées par leurs défenseurs comme une solution d'adaptation au changement climatique, comme un moyen de faire face aux sécheresses qui se multiplient et qui rendent difficile l'accès à une quantité d'eau suffisante pour les agriculteurs irrigants. C'est un sujet très conflictuel qui suscite l'opposition de nombreuses organisations écologistes et d'une bonne partie de la communauté scientifique qui dénonce une solution de maladaptation. L'opposition aux bassines dénonce également l'accaparement de l'eau par une très faible minorité d'exploitants, la mise sous perfusion d'un modèle agricole intensif délétère et l'impact de ces grands ouvrages sur les écosystèmes. Et si le sujet n'est connu du grand public que depuis les manifestations de Sainte-Soline, la lutte contre les bassines dans le Poitou, elle dure depuis une petite vingtaine d'années. La décision rendue par la Cour administrative d'appel de Bordeaux met, elle, un terme à une procédure judiciaire qui dure depuis 7 ans. Après un recours déposé par un collectif d'associations, le tribunal administratif de Poitiers avait jugé que pour 9 des 16 réserves concernées par le recours sur le bassin de la Sèvre-Niortaise-Mignon, le volume d'eau pouvant être prélevé était supérieur à la réglementation. La coopérative de l'eau des Deux-Sèvres avait revu sa copie et le tribunal administratif de Poitiers avait estimé que ces modifications remédiaient aux illégalités relevées. Le collectif d'associations a contesté ce jugement en 2023 devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux et c'est de cette décision finale qu'il s'agit aujourd'hui. Alors tout ça est à la fois très technique et très politique. On va tenter de défricher cette décision de justice, de voir dans quels enjeux elle s'inscrit plus largement. On va aussi discuter de l'avenir des luttes anti-bassines et des stratégies de ce mouvement qui n'a pas fini de faire des remous dans le Poitou.
Pour parler de tout cela aujourd'hui, on est en ligne avec Julien Leguet, porte-parole du mouvement Bassines non merci. Salut Julien.
Bonjour à toutes et à tous.
Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on se disait que tu es impliqué dans cette lutte depuis ses tout débuts. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter en nous racontant comment elle a commencé cette lutte pour toi ?
Ah oui, et en effet, comme vous le disiez dans votre présentation, la lutte, elle n'est pas neuve, c'est pas une lutte de quelques années ou quelques mois, c'est une lutte qui a commencé il y a en effet une vingtaine d'années, à l'époque où la France avait été condamnée par la Cour européenne de justice pour non-respect des directives environnementales sur les oiseaux migrateurs et sur les habitats naturels, où il avait été démontré que l'État français était défaillant en ayant privilégié la mise en place d'une irrigation intensive, et notamment autour de la culture du maïs, tout autour du Marais Poitevin, sur les 600 000 hectares qui correspondent à ces bassins versants, et que cette agriculture intensive et fortement utilisatrice d'eau qui s'était développée dans les années 90 aboutissait chaque année à des situations extrêmement périlleuses et qui remettaient en cause la vie, l'intégrité de ce Marais Poitevin, notamment à travers ces pompages qui systématiquement, et encore aujourd'hui systématiquement, vont épuiser les nappes et donc épuiser les rivières qui alimentent le marais. C'est à cette époque que malheureusement les premières méga-bassines ont vu le jour, notamment dans le sud Vendée, où il y a une première batterie autour d'une rivière qui s'appelle l'Autise, où il y a d'abord 5 bassines, puis 10 bassines qui ont été construites, pour finalement aboutir aujourd'hui à 25 bassines au niveau du sud Vendée. Également, la Charente-Maritime avait envoyé ses premiers projets, notamment sur un secteur du nord-ouest de la Charente-Maritime, autour de Courson, Benon, c'est la partie Marais-Poitevin de la Charente-Maritime, et où 7 bassines avaient été construites et très rapidement poursuivies par un collectif d'associations, et notamment Natura Environnement 17, et qui avait très rapidement abouti à des décisions de justice qui allaient dans le sens de la décision qu'on a eue à Bordeaux et qui avait déjà déclaré l'utilisation des méga-bassines comme n'étant pas compatible avec des textes réglementaires qui sont censés protéger l'eau, que ce soit la loi cadre européenne sur l'eau ou sa déclinaison en droit français. Et donc, c'est une lutte au long cours. C'est une lutte où d'abord, on a eu un mal fou à mobiliser. Il y a 15 ans, on tente d'animer quelque chose autour de la Vendée, de la Charente-Maritime, ça répond assez peu. Et les gens qui se sentent concernés à l'époque, ben, ça se réduit assez strictement aux associations de protection de la nature et aux organisations écolo habituelles. Et y a eu vraiment un rebond. Notre lutte, elle a connu un véritable décollage quand il a s'agi, il y a 8 ans de ça, d'installer 16 nouvelles bassines, 19 même nouvelles bassines à l'origine, sur le bassin de la Sèvre-Niortaise. Je rappelle ici qu'il y a trois fleuves qui alimentent le Marais Poitevin. Le principal, c'est la Sèvre-Niortaise, qui a un bassin versant d'à peu près 300 000 hectares et qui est donc concerné par ce projet qui aujourd'hui a une visibilité, j'ai même envie de dire internationale, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais il y a également un autre fleuve qui déverse une partie de l'eau du sud de la Vendée qui s'appelle le Lay. La Vendée étant un affluent de la Sèvre-Niortaise, où ça a démarré, je vous disais, il y a déjà une quinzaine d'années. Et le troisième petit fleuve, c'est le Curé, qui est un petit fleuve qui passe en Charente-Maritime et qui se jette directement dans la baie de l'Aiguillon, et où là aussi, il y avait des projets de bassines et qui ont été retoqués dès leur naissance. Le projet s'est fait défoncer juste après l'enquête d'utilité publique. Il y a eu des recours et ces projets ont été jugés illégaux. Sur le projet des Deux-Sèvres, il y a 8 ans de ça maintenant, la date anniversaire, c'était le 11 novembre, date hautement symbolique, 11 novembre 2017, où on a organisé notre première manifestation de masse à Amuret, qui était la commune qui était censée accueillir la plus grosse méga-bassine jamais construite autour du Marais Poitevin avec près d'un million de mètres cubes, et où on avait réussi ce pari un peu fou de réunir plus de 1700 personnes dans le froid et le vent pour faire une chaîne humaine afin d'entourer le chantier potentiel de la méga-bassine. Il fallait qu'on soit 1500 à se donner la main pour faire le tour de cet ouvrage qui devait faire près d'une quinzaine d'hectares. Et depuis, la lutte n'a cessé de se renforcer, n'a cessé de déborder, pour reprendre le terme de l'émission, les frontières du Poitou-Charentes, pour aujourd'hui être identifiée, je crois, comme une lutte importante à l'échelle européenne, une lutte qui, lors des derniers événements, que ce soit à Sainte-Soline en 2023 ou l'an dernier à Mel avec le village de l'eau, a attiré des dizaines de milliers de citoyennes et de citoyens dans le monde pour lutter contre ce projet d'accaparement de l'eau.
Merci Julien pour cette remise en contexte. On voit que effectivement ça remonte à beaucoup plus loin que les manifestations de Sainte-Soline. On va en discuter plus largement, mais avant ça, pour comprendre ce qui s'est joué avec cette décision de justice le 18 décembre, on va prendre quelques minutes pour se faire une piqûre de rappel en replongeant dans l'actualité de ces dernières semaines. C'est quoi les bassines et pourquoi est-ce qu'elles suscitent une telle opposition ?
Un moratoire et rien d'autre. Les anti-bassines sont de retour dans le Poitou, plus d'un an après les affrontements de Sainte-Soline qui avaient marqué les esprits par leur brutalité. Ils ne veulent rien lâcher face à la multiplication de ces retenues d'eau destinées à l'irrigation de certains agriculteurs. Un nouvel acte de cette guerre de l'eau qui, vu la raréfaction de ce bien commun, n'est pas prête de s'estomper.
Mais d'où vient toute cette eau? Eh bien, elle provient des nappes phréatiques en hiver, car c'est là qu'elles se remplissent le plus en raison des pluies. Concrètement, l'eau de pluie s'écoule dans les nappes phréatiques et c'est cette eau qu'on vient pomper pour remplir le réservoir et retenir l'eau. Les partisans de ces méga-bassines, comme celle de Sainte-Soline, les décrivent comme une solution de survie pour les agriculteurs afin d'irriguer leurs cultures face aux sécheresses extrêmes. Les manifestants dénoncent le risque d'un accaparement de la ressource de l'eau par l'agriculture intensive. Ils affirment que l'eau doit être un bien commun, d'autant plus face à l'urgence climatique qui accroît les sécheresses. Ils affirment également que les méga-bassines viennent favoriser les cultures gourmandes en eau, là où il faudrait peut-être plutôt changer les modes de production. Et donc vous le comprenez, la critique est également écologique, car ces bassins artificiels viennent puiser dans les nappes phréatiques en les épuisant alors qu'elles sont déjà très fragilisées.
Pourquoi les bassines ce n'est pas la solution ?
En fait, on va puiser dans les nappes phréatiques des ressources qui sont en train de s'épuiser.
Pour moi, les méga-bassines, c'est par exemple, d'abord et avant tout, un problème d'accaparement de quelques-uns.
Les bassines, c'est une solution pour l'agriculture productiviste.
Chez moi, il y a pas mal de jeunes qui travaillent sans irrigation, qui travaillent très bien. Si les fameuses méga-bassines se font, je crois que c'est un danger qui est pas que pour eux, hein, pour tous les citoyens.
Qui sont ces écologistes qui nous disent comment faire alors qu'ils ne connaissent rien à l'agriculture? Parce qu'au rythme où nous allons, ce n'est pas 400 000 fermes que nous serons demain. Il y aura 150 000 fermes de moins, ça c'est sûr, le problème sera réglé.
Comment on fait pour cultiver sans irriguer?
Il faut qu'on abandonne tous ces systèmes de monoculture. Il y a certaines cultures endémiques qu'on a abandonnées pour cultiver du maïs, pour nourrir les élevages. C'est pas contre les écouteurs qu'on est, c'est vraiment contre le système productiviste qui est absolument plus du tout adapté.
On a entendu dans ces quelques extraits des arguments qui dénoncent les impacts des bassines sur la ressource en eau et la biodiversité. Le point qui a permis de juger illégal 4 bassines ce 18 décembre dernier, c'est la présence de l'outarde canepetière. L'outarde qui est aussi devenue un symbole de la lutte anti-bassine. Julien, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cet oiseau et pourquoi c'est un enjeu sur cette lutte?
Oui, bah, c'est un oiseau assez extraordinaire. Et déjà, ce qui peut permettre peut-être aux gens, aux auditeuristes qui entendent, pour retenir un peu cette bestiole, et puis son nom un peu barbare, outarde canepetière. Faut savoir que c'est un animal qui vit dans les plaines céréalières ou dans les steppes, donc plutôt les milieux secs, c'est pas une espèce de zone humide ou de marais, et qui fait à peu près la taille d'un faisan ou d'un gros canard. Et c'est là que ça tient son nom, en fait, la canepetière, c'est la canne, parce qu'elle vole comme un canard, qui pète. Et c'est pas les femelles qui pètent, sont les mâles chanteurs qui, pour attirer les femelles ou délimiter leur territoire, vont émettre un son assez rigolo, qui est vraiment très proche d'une flatulence. Je peux même l'imiter là, hein, si ça.
Allez,
c'est
allez.
Voilà, comme ça.
Ok, on va passer des extraits de l'outarde dans le prochain montage, on pourra l'entendre en qualité.
C'est ça. Mais je crois qu'on a eu l'occasion d'entendre l'outarde canepetière sur un direct de France Inter. Et puis également à BFM, ils ont évoqué ce phénomène assez étrange. Bah, trêve de plaisanterie, c'est un animal qui est rarissime. C'est un animal où en fait la population mondiale tourne autour de quelques milliers d'individus et où il y a une sous-espèce, on pourrait dire, en tout cas une partie de la population qui a conservé son caractère premier, qui était un caractère de migration. C'est une bestiole qui va arriver sur les terres de Poitou-Charentes autour du mois d'avril et qui va en repartir pour certains individus au mois d'octobre. Parce qu'en fait, c'est un animal qui se nourrit d'insectes. Et c'est un animal qui, bah, pour le coup, va devoir trouver sa nourriture toute l'année. Et c'est ce qui fait que, traditionnellement, c'est une bestiole qui devait migrer pour continuer à se nourrir. Et puis, avec les effets du réchauffement climatique, et puis également le fait qu'il y ait des programmes de réintroduction et d'élevage de certaines outardes canepetières, ce caractère migrateur est en train de petit à petit s'atténuer dans la population naturelle. Il en est néanmoins que, pour dire l'importance de l'enjeu de l'outarde canepetière sur les secteurs qui seraient bassinables en Poitou-Charentes, le Poitou-Charentes accueille près de 75% de la population mondiale d'outardes migratrices. Et si on prend par exemple le secteur de Saint-Sauvent, qui était en théorie la prochaine bassine qui devait être construite et qui a été retoquée par le tribunal de Bordeaux sur les quelques parcelles, les quelques hectares autour de la bassine qui est en projet, eh bien c'est 5% de la population mondiale d'outardes migratrices qui se cantonnent chaque année. On avait signalé dès le début du projet, dès il y a 7 ans, dès l'étape d'enquête publique, et notamment par la voix d'associations comme la Ligue de protection des oiseaux ou Nature Environnement 17, que ces bassines auraient un impact sur la biodiversité de manière globale, mais en particulier pour toutes ces espèces de plaine. Et j'ai envie de citer d'autres espèces avec des noms tout aussi barbares et tout aussi méconnus de l'opinion publique, que sont le dicnème criard, qui est une espèce de petit échassier qui vit dans les plaines. Là encore, on aurait tendance à le trouver dans les marais, à penser le trouver dans les marais, parce que c'est un oiseau à pattes longues. En général, c'est le signe d'un oiseau qui vit dans la vase, et là, ce n'est pas le cas. C'est une espèce d'oiseau avec un très gros œil, une drôle de tête, une drôle d'allure, et qui, par contre, la nuit, chante comme un courlis. C'est magnifique quand on vit sur des territoires où les dicnèmes vivent encore. Il y a un champ nocturne qui est extraordinaire, qui porte à plusieurs centaines de mètres. Et ben, le dyknème, il est dans une situation qui est tout aussi périlleuse. Et puis, il y a d'autres espèces, notamment de rapaces, comme les busards cendrés, les busards Saint-Martin ou les busards des roseaux, qui eux aussi sont potentiellement impactés par les méga-bassines. Parce qu'en fait, tous ces oiseaux-là, ce qu'ils ont commun, c'est qu'ils nichent au sol. Et un des effets et un des impacts directs, quand de nouveaux secteurs viennent à être irrigués à grands coups de canon à eau et avec des centaines de litres qui se déversent chaque seconde, bah c'est qu'en fait, on ne peut pas nicher, on ne peut pas se reproduire sous un canon à eau. Les tombes d'eau qui tombent sont incompatibles avec le fait de rester sur place, posé sur ses œufs, à attendre tranquillement que l'orage soit passé. Et ça, c'est le rapport du CNPN, du Conseil national de la protection de la nature, qui le dit très clairement. Voilà un élément concret qui fait que la COP de l'eau, la société anonyme coopérative de l'eau de 79, s'est fait bananer sur l'aspect outarde au tribunal de Bordeaux, à la cour d'appel de Bordeaux. C'est que l'avis du Conseil national de la protection de la nature n'avait pas été sollicité, alors qu'il est obligatoire. S'agissant d'une espèce qui bénéficie d'un plan national d'action, ce n'est pas une option. Et ce qui est aussi particulièrement criant, c'est que l'État, qui devrait être censé garantir et l'intérêt général et l'application des lois, n'a pas imposé à la COP de l'eau, ne lui a pas rappelé que la mesure de l'impact sur l'eau de Canepotière, c'était pas une pièce facultative dans son dossier. Et donc, y a cette décision qui est tombée il y a maintenant quelques semaines, le 18 décembre, qui est venue appuyer, en effet, qui a retenu l'argumentaire des 10 associations de protection de la nature et les fédérés de pêche, comme quoi la COP de l'eau était en dehors des clous, au moins sur l'aspect de l'outarde. Mais je me rappelle que le rapporteur public avait précisé qu'il y aurait pu y avoir le même type de démarche sur les espèces que j'ai citées précédemment. Et donc, ça a abouti sur sa préconisation qui a été donc de demander la suspension de ces 4 bassines.
Là, on est uniquement sur le sujet biodiversité, écosystème. Avant de continuer à défricher cette décision de justice, on voulait aussi t'entendre sur l'autre grande problématique des bassines qui est celle de l'accès à la ressource en eau. Est-ce que tu pourrais nous parler du principe de substitution qu'utilisent les défenseurs des projets de bassines et des raisons pour lesquelles ce principe est critiqué aujourd'hui?
Oui, en effet, dans votre introduction, vous citiez les différents noms qui sont apportés à ces ouvrages-là. Les porteurs de projets et l'État parlent en effet de réserve de substitution. Ils n'osent plus parler de retenue de substitution. Et on peut peut-être prendre un petit peu de temps pour faire de la sémantique. Une retenue, ça laisse entendre que c'est de l'eau qu'on retiendrait dans sa course, type un barrage. On met un frein sur une rivière et l'eau s'accumule. Les bassines ne sont pas des retenues puisque, comme le dit à juste titre votre reportage et puisqu'on entend ensuite dans les différents extraits des différents médias, ce sont bien des ouvrages complètement artificiels, creusés à grands coups de pelleteuse, où on fait un trou béant, un cratère de plusieurs mètres dans la roche mère, dans la roche calcaire, et tout ce qui est extrait du cratère est disposé tout autour pour faire des digues. Et ça fait des plans d'eau qui peuvent faire jusqu'à 15 mètres de haut. Rien que ça, je me faisais la réflexion en entendant les extraits. Il y a 7 ans, quand on avait à combattre les méga-bassines, la première chose qu'on avait à expliquer, et ce n'était pas du tout clair, notamment par les journalistes qui traitaient le dossier, c'est que ces bassines, elles ne sont pas remplies par l'eau de pluie. Ce n'est pas un bassin d'orage qui va récupérer de l'eau de ruissellement. Alors évidemment, comme la bassine elle est plastifiée, il y a bien une quantité d'eau de pluie qui va tomber dedans. Mais je rappelle, quand on dit qu'il pleut 1000 mm par an sur un territoire, et chez nous, en Poitou-Charentes, c'est entre 800 et 1000 selon les années, ça signifie que si toute l'eau s'accumulait et qu'elle ne s'évaporait pas, il y aurait entre 80 cm et 1 mètre d'eau dans le fond de la bassine. Et donc, certainement pas de quoi remplir les 15 mètres du lac. Donc, la notion de substitution, ça a été vraiment l'argument de vente des porteurs de projets. C'est comme ça qu'ils ont vendu leur projet aux élus locaux, aux collectivités, aux financeurs potentiels en disant ben, « on est bien conscient ». Et ça, c'était déjà une avancée, hein, que en fait, si la situation était problématique et de manière récurrente, c'est bien qu'il y avait un problème de surirrigation sur ce territoire. Et c'est là où c'est le pivot, il est là. C'est à cette époque, les collectivités, par exemple l'agence de l'eau, auraient dû dire ben, « puisqu'il y a trop d'eau qui est consommée, eh bien, il faut qu'on accompagne les paysans et les exploitations agricoles du territoire vers des systèmes qui ont un moindre recours à l'irrigation. Et ça, pour ça, on aura aussi certainement l'occasion d'en parler, mais il y a plein de solutions qui existent. Et puis, c'est dit dans le reportage, l'écrasante majorité des exploitants agricoles de nos territoires arrivent aujourd'hui à tirer revenu en s'affranchissant du recours systématique à l'irrigation. L'irrigation, elle ne concerne que 10% de l'ensemble de la population agricole, et l'accès aux bassines sur le bassin de la Sèvre-Niortaise ne concernerait que 5% de l'ensemble des exploitations. Donc, ça signifie bien qu'il y a encore tout un tas de systèmes agricoles, qu'ils soient dans le maraîchage, dans la céréale ou dans l'élevage, qui aujourd'hui arrivent à s'affranchir de cette irrigation.
Il nous reste qu'une minute avant de passer aux extraits d'après. Du coup, je t'aurais bien demandé de développer un tout petit peu justement ce point-là en nous disant on voit que les bassines, c'est aussi une manière de mettre sous perfusion un modèle agricole qui est délétère. Est-ce qu'en une minute, tu peux nous dire un mot sur ce que vous défendez comme rapport à l'agriculture
Ça va être dur. Ça va être dur en une minute, oui. Mais pour que les unes les autres puissent voir les grands enjeux de manière assez globale. Le grand chiffre, c'est qu'en France, de manière générale, 50% de toute l'eau qui est consommée par l'agriculture. Et dans ces 50%, la moitié de la consommation, c'est pour cultiver une plante tropicale qui s'appelle le maïs et qu'on a développée très fortement en France, notamment parce que c'est la plante magique pour faire pousser des animaux en élevage et leur faire connaître une croissance accélérée. Et ça répond complètement aux desiderata et aux contraintes d'un marché agricole mondialisé où il faut faire du rendement, il faut produire vite, quelle que soit la qualité. Et donc, en fait, il y a un recours au maïs qui a commencé à s'installer sur nos territoires, notamment pour faire du maïs en silage, pour donner aux bêtes, aux vaches, pour faire du lait. Alors qu'une, comme c'est dit dans le reportage, une vache, ça mange de l'herbe, et même ça a besoin de manger de l'herbe pour son équilibre global. Et puis par la suite, on a commencé à utiliser le maïs pour tout un tas d'autres usages. Ça peut être du maïs grain qu'on va consommer, mais c'est une portion extrêmement limitée. Aujourd'hui, on est capable de faire pousser du maïs simplement pour alimenter des méthaniseurs. Voilà. Non, en une minute, j'arriverai pas à résumer la situation.
On pourra reprendre un petit moment dans la suite de l'émission pour pousser ça. On comprend en tout cas que les bassines ne sont pas la seule issue possible pour l'agriculture de demain. Un avenir agricole sans bassines, c'est peut-être ce qui commence à se dessiner au fur et à mesure des décisions de justice. On verra si tu es d'accord avec ça. Et pourtant, la décision de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en décembre est aussi bien accueillie chez les anti-bassines que chez les irrigants. Et pour bien le comprendre, on va replonger une fois de plus dans l'actualité de ces dernières semaines autour de cette décision de justice. Et on va aussi voir comment est-ce que les médias en parlent.
De canepetière. Long d'une quarantaine de centimètres, cet oiseau de plaine menacé d'extinction vient compromettre les plans des irrigants. La Cour administrative d'appel de Bordeaux estime que 4 des 16 réserves de substitution prévues sur le bassin du Mignon et de la Sèvre-Niortaise sont de nature à détruire tout ou partie de l'habitat de cette espèce protégée. La décision suspend donc les projets de réserve à Messé et Mougon et interdit le démarrage des travaux à Saint-Sauvent, initialement prévu en septembre 2025. Concerné également, car situé en zone de protection de l'Outarde, la très controversée méga-bassine de Sainte-Soline pourra toutefois être mise en service l'été prochain. Les 12 exploitations raccordées pourront bénéficier de l'eau déjà stockée, mais tout nouveau remplissage sera interdit. Si cette décision apparaît comme un revers pour la COP de l'eau 79, il ne s'agit pas d'une annulation, mais bien d'une suspension. S'ils présentaient des garanties supplémentaires pour protéger la faune, les irrigants pourraient obtenir une dérogation de la justice. Une reprise des travaux serait alors possible, le tribunal reconnaissant dans le projet le principe d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.
Alors, c'est un peu technique, mais ça vaut le coup de s'accrocher. Alors, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a effectivement jugé illégaux 4 projets de stockage de l'eau pour l'irrigation, ce que les anti-bassines appellent donc des bassines, Sainte-Soline, l'emblématique, et 3 autres réserves qui ne sont pas encore construites dans les Deux-Sèvres et dans la Vienne. Et tout de suite, donc, les anti-bassines ont crié victoire, victoire sur l'agro-industrie, la destruction du vivant, les agriculteurs pollueurs, je vous passe tous les clichés. Alors, ils ont sorti un petit peu vite les confettis. S'ils avaient lu l'arrêt de la justice administrative, ils auraient sans doute modéré leur enthousiasme parce que c'est loin d'être fini. Le principe principe de stocker l'eau en hiver, l'eau de la nappe très abondante et qui déborde pour l'utiliser en été reste totalement pertinent, les activistes sont loin d'avoir eu la peau des réserves.
C'est-à-dire ?
Eh bien, d'abord, que dans la requête en annulation qui avait été déposée par une dizaine d'associations environnementalistes contre les bassines, il n'y avait pas 4 projets, il y en avait 16. Les 16 portés par les agriculteurs de la coopérative de l'eau des Deux-Sèvres. Ils voulaient donc les antibassines, l'annulation et la remise en état des sites, c'est raté. La Cour administrative d'appel de Bordeaux ne voit aucun problème pour 12 d'entre eux. Eh bien oui, il faut lire tous les paragraphes des arrêts.
Alors, 12 bassines épargnées, il y en a quand même 4 qui sont donc considérées comme illégales.
Ah ben là encore, il faut tout lire. Les ennemis des super méga giga bassines ont eu la flemme de le faire. Ces 4 projets sont illégaux parce qu'il manque une pièce au dossier, une dérogation de la préfecture sur le droit de l'environnement et plus spécifiquement sur la protection des espèces protégées. Il y a aux alentours des sites des outardes canepetières, des volatiles en passe de devenir super célèbres. Les agriculteurs expliquent que c'est parce qu'ils ont justement prévu d'aménager le calendrier des travaux pour ne pas gêner la nidification qu'ils n'ont pas demandé la dérogation environnementale. Et ils vont donc le faire auprès du préfet, qui jusqu'ici n'a pas vu d'inconvénient à les délivrer.
Et donc ensuite, qu'est-ce qui va se passer ?
Mais muni de sa dérogation, chaque projet pourrait aussitôt reprendre, même pas besoin de passer devant le juge.
C'est une décision de la Cour d'appel de Bordeaux qui donne satisfaction aux deux camps. Irrigants et antibassines revendiquent chacun une part de victoire. Sur la gestion de l'eau, sur l'ensemble des réserves de substitution, le tribunal estime que, dans sa dernière version, le projet ne méconnaît pas le principe d'une gestion équilibrée et durable de l'eau. La COP de l'eau, propriétaire des ouvrages, marque un point.
C'est une bonne nouvelle, parce qu'aujourd'hui, la Cour quand même valide le projet de la COP de l'eau sur l'ensemble des réserves. Il valide l'impact hydraulique du projet.
Sur les 16 réserves de substitution, la justice en retoque 4, dont celle de Sainte-Soline, prête à être exploitée. Les propriétaires n'ont pas fait de demande de dérogation pour espèces protégées. Les sites concernés abritent pourtant un oiseau rare, l'outarde canepetière. Les militants écologistes se disent entendus.
C'est quand même la première fois que la biodiversité est prise en compte dans un jugement. Le juge dit ces ouvrages sont illégaux.
Ces réserves ne sont pas pour autant définitivement annulées. Les irrigants peuvent encore demander ces dérogations. Ils disent avoir fait les efforts environnementaux nécessaires. Quoi qu'il arrive, ces nouvelles démarches vont repousser les projets d'au moins un an. En attendant, les agriculteurs raccordés à la réserve de Sainte-Soline pourront exploiter l'eau stockée, même si son remplissage vient d'être stoppé par la justice.
Je suis avec Éric Frétillière. Bonjour.
Bonjour Jean-Jacques Bourdin.
Vous êtes agriculteur, président d'Irrigants de France et vice-président d'Irrigants d'Europe. Votre première réaction ?
Alors ma première réaction, c'est que la bassine, le terme de bassine me gêne beaucoup parce qu'il est utilisé uniquement par nos détracteurs.
Oui.
Et nos homologues norvégiens font à peu près le même projet parce qu'ils ont également beaucoup d'eau. Ils sont partis dans des projets de stockage, ils appellent ça des mares. Et bon. Si on utilise le terme de mare, vous allez voir que la outarde canepière, elle s'intègre parfaitement bien. C'était juste une petite introduction pour vous dire
vous
d'abord que la condamnation d'hier, ce n'est qu'une suspension.
Oui.
C'est une suspension qui concerne que 4 dossiers. Le dossier de Sainte-Soline... Il est construit, les 3 autres sont pas construites, il va falloir demander une dérogation au préfet. Donc à ce stade-là, il n'y a rien de dramatique. Mais pour revenir à la outarde canepetière, ce qui est important de rappeler, c'est que dans les projets de Sainte-Soline, la outarde a bien entendu été mise en considération. Le projet de Sainte-Soline, la réalisation des travaux a duré très longtemps pour une simple et bonne raison, c'est que les travaux ont cessé pendant la période de migration de la outarde pour permettre l'installation de la vie et le déplacement dans de bonnes conditions de la outarde.
On vient d'entendre des extraits de l'actualité qui concerne la décision juridique qui a permis de juger illégal 4 bassines. Le juridique, c'est souvent assez technique et cette décision, c'est le résultat d'un long parcours judiciaire. Est-ce que, Julien, tu peux nous parler un petit peu de ce parcours judiciaire et nous parler un peu depuis votre perspective à Bassines Non Merci ?
Ouais. Alors, le parcours judiciaire, c'est une épopée. Hein, et... Là, il y a le dossier de la Sèvre-Niortaise qui est sous les lumières des spotlights, mais des projets de bassines concernant différentes rivières autour du Marais Poitevin, il y en a pléthore. Et il y a une résistance qui est portée par des associations de protection de la nature et qui ont déjà fait tomber un certain nombre de projets. Tout à l'heure, je parlais du projet du curé. Dans la Vienne, il y a le projet de la Palue qui est tombé. Et là, je précise tout de suite, tous ces recours, ils sont portés par les associations de protection de la nature. Le collectif Bassine Non Merci, c'est un collectif informel qui ne peut pas ester en justice. On n'a pas de statut, on n'a rien déposé en préfecture. C'est des citoyennes, des citoyens et des représentants d'organisations qui se retrouvent pour, parce qu'on est scandalisé par ces bassines pour différentes raisons et différents arguments. Mais je tiens à rendre à César qui est à César. C'est bien les associations de protection de la nature qui portent ces recours et qui, jusqu'à maintenant, enchaînent plutôt les victoires. Sur le projet spécifique de la sèvre niortaise, je rappelle que c'était la troisième fois que ce projet, qui date de 2017, était jugé. Et à chaque étape, le projet s'est fait raboter. Le projet initial, c'était 19 bassines, avec des bassines, beaucoup, au moins pour 9 d'entre elles, beaucoup plus grandes que le projet qui est aujourd'hui sur la table. Donc, ça veut dire que déjà, le projet initial, il était mal fagoté. Donc, ils se sont pris une première tôle et il y a 3 bassines qui ont dû disparaître. Ensuite, il y a une deuxième décision à Bordeaux qui disait que 9, au moins, d'ailleurs, dans l'arrêté, dans le délibéré, ça disait au moins 9 des 16 bassines étaient surdimensionnées par rapport justement aux critères de bon fonctionnement écologique des rivières qui se situent à proximité. Et donc, les associations ont jugé que cette décision était insatisfaisante et en ont fait appel. Ce qui a donné le délibéré de la chambre administrative de Bordeaux, qui là maintenant vient raboter 2-4 bassines, mais comme c'est dit dans le reportage, c'est une suspension, c'est-à-dire qu'il est reconnu que les démarches qui étaient obligatoires n'ont pas été appliquées, et donc le tribunal propose à la COP de l'eau de se remettre sur les rails et de refaire les dépôts d'autorisation de destruction d'espèces protégées dans les clous. Et est-ce qu'elles seront validées ou pas? Moi, je ne sais pas lire dans le marc de café. Je suis quand même assez inquiet dans le sens où, en dernier ressort, ce n'est pas la justice qui délègue, qui donne les dérogations d'espèces protégées, c'est bien les services de l'État. Et on sait que dans ce dossier des bassines, la position des services de l'État et des gouvernements qui succèdent, elle est très, très problématique, puisqu'il y a un véritable... parti pris, en fait, l'État ne se situe pas du tout en médiateur ou en garant de l'intérêt général ou du respect des lois, mais bien comme porteur et comme initiateur pour que ces méga-bassines se construisent et même mettre une pression de fou sur les irrigants eux-mêmes pour qu'ils aillent au bout de ces projets-là, même si aujourd'hui un certain nombre aimerait largement s'arrêter.
Là-dessus, on a le sentiment que les décisions de justice, elles tombent toujours un peu tard, en fait, parce que les préfectures délivrent les autorisations de prélèvement et les autorisations de construction de bassines. Après, il faut attendre plusieurs années avant que les ouvrages soient déclarés illégaux, quand c'est le cas. Et pendant ce temps, il y a de l'argent qui a été investi, il y a des prélèvements qui ont pu se faire, les chantiers de construction des bassines ont bien avancé. Comment est-ce qu'on peut expliquer que sur un sujet aussi peu consensuel que les bassines, aujourd'hui, il suffise encore d'une autorisation préfectorale pour déclencher les travaux? Et est-ce qu'on connaît des alternatives à ce processus qui, aujourd'hui, pose problème, visiblement?
Malheureusement, ce que vous décrivez là... c'est ce qu'on constate sur tout un tas de méga aménagements en France. Le temps de la justice n'est pas aligné, le temps des travaux n'est pas aligné sur le temps de la justice. Nous, ce qu'on réclame depuis le début, c'est que sur ce genre d'infrastructures qui peuvent modifier en profondeur, là en l'occurrence le cycle de l'eau de tout un bassin versant de plusieurs centaines de milliers d'hectares, avant de lancer des travaux et puis de faire passer le rouleau compresseur, et y compris pour des questions d'argent public, parce que ça n'a pas été dit, mais une des choses qui scandalise un certain nombre de personnes qui s'engagent contre les bassines, c'est que ces ouvrages qui sont à vocation privée, elles sont largement subventionnées de l'ordre de au moins 70% d'ouvrages qui, en moyenne, vont coûter 4 millions d'euros pièce pour une bassine moyenne. On va mettre toute cette énergie-là, tout cet argent public, pour finalement, éventuellement, se retrouver, comme c'est le cas sur les bassines dont je parlais tout à l'heure, en Charente-Maritime, les bassines de la ZAD des Roches, avec des ouvrages qui en réalité se retrouvent taxés d'illégalité et qui en théorie ne devraient plus être exploités. Donc ça laisse entendre que déjà d'une part, le droit français sur ces aspects-là est mal ficelé. Il faudrait qu'on soit capable de réformes profondes qui disent non, en fait, on permet à tous les recours d'être exprimés avant de pouvoir lancer les travaux, parce qu'il y a un côté irréversible. En fait, quand on fait une méga bassine, on artificialise complètement une terre, on ne refera jamais de culture sur une terre qui a été bassinée. c'est un cratère, c'est des millions d'euros qu'il faudrait remettre pour reboucher le trou et pour remettre de la terre arable, etc. Il faut qu'on arrête de faire la politique comme ça, il faut qu'on arrête de rendre la justice comme ça. Et là, on va se retrouver face à un facteur limitant qui est quels moyens on donne à la justice pour qu'elle puisse mettre un maximum d'experts et obtenir des expertises. Moi, je suis assez favorable à ce que la justice administrative elle puisse se faire en un temps plus rapide. Mais ça, si on veut l'obtenir, c'est y donner des moyens juridiques et des moyens financiers. Où est-ce qu'on les met ? Est-ce qu'on les met à payer des centaines ou des milliers de CRS pour venir nous taper sur la gueule ? Ou est-ce qu'on les met pour mettre en place des études, pour faire en sorte qu'il y ait plus de juristes qui puissent rendre, et d'experts qui puissent rendre la justice plus rapidement, en tout cas informer et instruire pour que les décisions de justice soient prises en toute connaissance de cause. Donc en réalité, tout ça en est fait très, très, très politique.
Est-ce que cette décision de justice, ça reste une victoire d'étape pour vous ? Quels impacts on peut espérer de cette décision ? Et peut-être, qu'est-ce que ce serait pour vous une victoire plus largement pour le mouvement anti-bassine ?
C'est évidemment une victoire d'étape. Et alors, je ne sais pas quelle était la journaliste, la deuxième, qui intervenait.
Sur Europe 1.
Ouais, c'est pas une
certaine Géraldine Bourquin. C'est une chroniqueuse d'Europe 1.
Ouais, il y a deux chroniqueuses comme ça qui interviennent sur ces médias mainstream et qui sont très clairement des porte-parole de la FNSEA qui ne disent pas leur nom et qui nous ont, qui là dans le reportage, qui nous infantilisent. C'est pas la première fois, on les connaît très bien.
Et t'as bien lu la décision de justice, Julien ? Tu l'as bien lu dans les détails ? T'as pas eu la flemme ?
C'est ça. Et en effet, si elle avait fait l'effort journalistique et par honnêteté, par déontologie, avait fait son boulot correctement, elle se serait aperçue que le communiqué de presse qu'on a délivré dans les trois heures qui ont suivi la décision de justice, elles étaient très claires. Et évidemment, on n'a pas crié victoire. L'analyse selon laquelle la décision était insatisfaisante, parce que notamment sur les aspects hydrauliques, elle n'avait pas voulu étudier les moyens qui étaient présentés par les associations. Mais ça vaut le coup de revenir dessus, parce que par exemple, quand les juges disent que c'est OK au niveau hydraulique, quand même, dans les pièces qui étaient posées par les associations, il y avait un constat d'huissier qui démontrait que la bassine de Mosé, qui est la première des 16 bassines qui a été construite, elle pouvait être remplie alors que la rivière Mignon, qui se situe à 300 mètres en contrebas, était à sec. C'est ce qui s'est passé lors du premier remplissage. Et ce qu'oublie de dire la journaliste, et je vais le préciser ici, c'est que si la décision de Bordeaux, elle est insatisfaisante sur le plan hydraulique, et c'est pourquoi certainement, et je ne peux pas m'engager pour eux, mais ils y réfléchissent, il va certainement y avoir une demande de cassation de ce jugement devant le Conseil d'État, puisque justement, ce n'est pas satisfaisant sur le plan hydraulique. Par contre, si Géraldine Vosner ou sa collègue bossaient les dossiers correctement, elles auraient dû se rappeler que le 9 juillet, juste avant le village de l'eau, une décision à Poitiers, au tribunal administratif de Poitiers, avait été rendue, disant que l'AUP, donc là c'est un peu technique, mais je vais faire simple, l'autorisation unique de prélèvement qui va conditionner pour les 5 ans qui viennent les quantités d'eau consacrables à l'irrigation. Et donc là, il y avait une AUP qui datait de 2021, qui avait été attaquée par les associations de protection de la nature et qui, 3 ans après, en fait, obtiennent satisfaction avec un tribunal qui dit qu'en effet, les volumes distribués à l'irrigation sont largement supérieurs à ce que les milieux peuvent encaisser. Donc en fait, une décision qui dit que les bassines, c'est de la merde, que la substitution, c'est une arnaque, et qui donne raison aux arguments de fond qu'on développe sur l'eau depuis le début, elle existe, elle est à Poitiers, et on demande juste son implication. Par exemple, une des satisfactions, c'est de savoir que la bassine de Mosée, la bassine de Sainte-Soline, elle devait s'arrêter d'être remplie à partir de la décision de justice. Ben, malgré ça, la COP de l'eau a continué à la faire fonctionner pendant les 4 jours qui ont suivi, sous prétexte qu'ils n'avaient pas reçu la notification du tribunal, ce qui est un mensonge absolu, et ce qui est d'une mauvaise foi absolue, parce qu'en fait, personne, le 18, ne pouvait nier la décision. Boudot et son avocat étaient dans la salle pour entendre le délibéré, donc il ne faut pas se foutre de la gueule du monde. Et donc, la COP de l'eau, qui est d'une malhonnêteté crasse, a pillé 40 000 mètres cubes supplémentaires après la décision de justice. C'est une victoire d'étape, parce que déjà, d'une part, le prochain projet contre lequel on se mobilisait, c'était celui de Saint-Sauvant. Et contrairement à ce que dit le reportage, ce n'était pas en septembre 2025 que ça devait démarrer, c'était en septembre 2024 à l'origine. Et c'est parce qu'on résiste, c'est parce qu'on occupe le terrain, et aussi certainement parce que la COP de l'eau commence à creuser un gouffre économique et financier énorme. Aujourd'hui, il y a plein d'irrigants primo connectés à la bassine de Mosée qui n'arrivent pas à honorer leurs factures d'eau tellement l'eau est chère, malgré les 70% d'argent public. Et donc, ce que la décision de justice de Bordeaux, ce qu'au moins elle nous donne, c'est du temps. On n'est plus sous le coup d'un démarrage de chantier dans les semaines qui viennent, mais jusqu'au mois de septembre prochain, ça nous laisse du temps pour justement repenser des modalités d'action, mettre le coup de boutoir final pour que les bassines du Marais Poitevin, mais l'ensemble des bassines de France soient remises en cause. Parce que en réalité, notre moratoire, notre demande, elle est la même depuis 7 ans. Elle est un moratoire sur l'ensemble des projets de stockage à vocation uniquement agricole, en particulier quand ça recourt à des techniques qui sont de l'artificialisation pure. Parce que contrairement à ce que dit le Pignouf, le président des irrigants de France, non, c'est pas des mares. Une mare, c'est au niveau du sol et c'est pas un cratère de 15 mètres de haut. Une mare, des oiseaux migrateurs peuvent s'y arrêter, c'est un milieu aquatique, il y a des plantes, etc. C'est un milieu de vie. Non, c'est bien des cratères plastifiés, c'est pas une mare. D'ailleurs, cet intervenant-là arrête pas de dire des sottises, hein, et ce serait bien qu'à ce moment-là, il y ait des journalistes pour lui dire qu'il raconte n'importe quoi. C'est pas l'Outre-Carcane-Penière, c'est l'Outre-Carcane-Petière. Les projets, ils sont bloqués, les travaux, ils sont bloqués, non pas quand les outardes, elles sont en migration, mais bien quand elles sont sur place et en Poitou-Charentes pour la reproduction. Donc, c'est n'importe quoi ce qu'il raconte. Et donc, pour nous, la vraie victoire, ce serait que ces 70 millions d'euros qui devraient être consacrés à la construction des bassines sur le bassin de la Sèvre-Niortaise, en fait, on garde les enveloppes sur les territoires et qu'on les redistribue auprès des exploitants agricoles qui veulent vraiment faire l'effort de l'économie de l'eau, qui veulent vraiment faire l'effort de la sauvegarde de la biodiversité, qui veulent vraiment faire l'effort de développer des cultures non pas à vocation d'exportation sur des marchés internationaux et à la spéculation, mais bien pour nourrir des territoires. Parce que dans les arguments qui sont développés notamment par la FNSEA, c'est de dire « Ah oui, mais on nourrit la planète, etc. » Non, ils nourrissent leur portefeuille. Le territoire de Niort, par exemple, la communauté d'agglomération niortaise, si les cultures étaient orientées vers des objectifs d'autonomie alimentaire, on pourrait être autonome à 90% de ce qui pousse et de ce qui grandit sur nos territoires. Aujourd'hui, on ne se nourrit qu'à hauteur de 2% de ce qui pousse sur nos territoires, et les 98% restants proviennent de l'importation. Alors que ce soit une importation régionale ou nationale, internationale, il n'empêche qu'aujourd'hui, ce qu'on réclame, et on va là-dessus rejoindre complètement les arguments ou les visions de syndicats agricoles comme la Confédération Paysanne ou le MODEF, c'est bien une réorientation des aides, c'est bien une réorientation des aides pour favoriser des revenus et une réorientation des aides pour favoriser la relocalisation des productions.
Okay. On comprend bien donc que la décision de justice de décembre est certes une victoire, mais qu'elle reste seulement, entre guillemets, une victoire d'étape qui donne du temps, du répit. On va continuer de parler de tout ça et notamment du lien entre lutte écolo et justice. Mais avant ça, on reprend notre souffle en musique avec Les voleurs d'eau, interprétés par Imani.
Ils détournent la rivière, là-haut, là-haut. Ils se moquent de nos misères, là-haut, là-haut. Si la soif nous affaiblit et si nos sources sont taries, tout l'eau, trop d'eau, vont périr l'un après l'autre. Là-haut, là-haut, il faut sortir nos fusils. Là-haut, là-haut, il faut lutter pour nos vies. Mais d'abord, il nous faut parler assez. Nos terres sont les plus fertiles, c'est l'eau, et nous vivions si tranquilles de nos travaux. Quand nous montions dans nos bars, lorsque nous pêchions dans le lac, heureux, heureux, ils veulent construire un barrage, là-haut, là-haut, c'est la vallée qu'ils saccagent. Là-haut, là-haut, ils inonderont nos villages et nous mettront dans des cages. Là-haut, comme des corbeaux, nous les empêcher là-haut de détruire nos foyers si beaux tous les hommes vont s'armer toutes les femmes vont les aider il faut de l'eau.
C'était Les voleurs d'eau, chanté par Imani, une chanson composée par Bernard Michel et Henri Salvador en 1979, il y a 46 ans. Vous écoutez Débordement, l'émission d'écologie politique de Radio Pulsar. Nous sommes avec Julien Leguet, porte-parole de Bassine Non Merci, et on parle aujourd'hui de la décision de justice de décembre dernier ayant rendu 4 bassines illégales dans le Poitou, dont celle de Sainte-Soline. On est revenu sur ce qu'étaient les bassines, sur les raisons d'une telle opposition et sur l'importance des luttes judiciaires dans le combat contre les bassines. On va continuer de parler de tout ça et notamment du lien entre justice et lutte écologiste. Mais avant ça, et pour se rafraîchir les idées, on replonge dans l'actualité de ces dernières semaines.
Revenons sur cette intrusion des anti-bassines hier soir à Sainte-Soline, manière pour eux de célébrer l'illégalité qui frappe désormais cette réserve d'irrigation et 3 autres. Une vingtaine de militants a forcé le grillage et au retour s'est retrouvé nez à nez avec un groupe d'agriculteurs. La bagarre générale a été séparée par les gendarmes. L'un d'eux aurait été blessé selon la préfecture et une enquête ouverte.
C'est quand même le un gouvernement et pour autant deux poids deux mesures. Quand nous avons des actions qui sont bien moins violentes, hein, on est traité directement d'éco-terrorisme. Quand là, on rappelle quand même qu'hier à Carcassonne, il y a un bâtiment qui a été soufflé par une explosion, un bâtiment public, une agence de l'environnement qui a été soufflé par une explosion, donc une bombe a été posée quand même. Et là, on a, en réaction, on a un ministre de l'Agriculture qui décale une loi, Emmanuel Macron qui demande à tous les préfets d'aller rencontrer les agriculteurs, et puis un Premier ministre qui reçoit en grande pompe ses auteurs. Donc on remarque quand même que dès que les actions viennent du côté des écologistes, on a quand même beaucoup plus facilement envie de les taxer d'éco-terroristes et puis de les criminaliser.
Un bâtiment du ministère de la Transition écologique soufflé par une explosion sur fond de mouvement de colère des agriculteurs. Ça s'est passé dans la nuit du jeudi 18 au vendredi 19 janvier à Carcassonne. Le rez-de-chaussée d'un bâtiment appartenant à la DREAL, la Direction Générale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, a été soufflé par une explosion. Ce bâtiment était vide pour cause de travaux, mais à l'intérieur, d'importants dégâts matériels ont été constatés. Sur place, 2 tags ont été retrouvés avec ces 3 lettres, CAV, les initiales du Comité d'Action Viticole, un groupe de vignerons occitans connu pour ses actions violentes depuis les années 70.
Est-ce qu'on doit les laisser faire sans envoyer les CRS? Oui. En tant que ministre de l'Intérieur, à la demande du Président et du Premier ministre, je les laisse faire.
Bloquer la circulation, c'est illégal. S'en prendre à un établissement public, c'est illégal. Enfreindre la liberté de circuler, c'est illégal.
Est-ce que les agriculteurs s'en prennent aux policiers ou aux gendarmes? Est-ce qu'ils s'en prennent aux bâtiments publics? Est-ce qu'ils mettent le feu aux bâtiments publics? Ce n'est pas le cas. Voilà, donc j'ai rappelé, non, ce n'est pas le cas.
Enfin, vous avez vu les images à Bordeaux devant la préfecture? Ils n'ont pas défoncé la grille d'entrée?
Écoutez, moi je suis élu d'un territoire où il y a aussi des agriculteurs. Je suis habitué au coup de sang et légitime de ceux qui souffrent.
J'ai bien entendu ce qu'a dit Gérald Darmanin et je l'appelle à être cohérent et à cesser ce deux poids deux mesures. Et donc je l'appelle à mettre immédiatement fin aux poursuites qui visent 1000 militants et militantes de la CGT qui sont poursuivis pour s'être mobilisés contre la réforme des retraites. Donc la même chose que les agriculteurs avec des actions absolument pas violentes puisque nos militants sont poursuivis pour avoir fait un feu de palette sur la voie publique ou dérouler du papier toilette par exemple sur un bâtiment.
Pour répondre à la question, pourquoi il y a une différence de traitement entre les gens de la Confédération paysanne qui faisaient une manifestation pacifiste, qui ont été nassés, où on a pris des gens dedans, qui sont restés un certain moment en garde à vue, on ne sait même pas les conséquences derrière exactement ce qui va se passer, et les autres qui peuvent détruire certains outils de l'État sans que ça pose de problème.
La mare de Sainte-Soline est pleine,
Éric Frétilère ?
Non, elle n'est pas tout à fait pleine encore. Elle est en remplissage. Elle va être pleine, je pense, avec les pluies que nous avons très rapidement d'ici le mois de janvier. Et avec la dérogation, elle pourra être utilisée cet été.
Elle pourra être utilisée cet été par les agriculteurs. Et ensuite, une fois l'été passé, une fois la mare vidée ?
Eh bien, il suffira de la re-remplir dans les périodes de hautes eaux.
Alors, on a bien entendu le deux poids, deux mesures. On voit notamment qu'il y a une certaine tolérance envers les irrigants. Pour revenir sur la décision de justice de décembre, la Cour administrative d'appel de Bordeaux précise que la suspension ne doit pas donner lieu à un nouveau remplissage de la réserve. C'est assez clair et pourtant, ça risque de ne pas être respecté. On rappelle aussi qu'il y a déjà eu un jugement du tribunal administratif de Poitiers le 10 décembre 2024 qui actait qu'aucun prélèvement à des fins d'irrigation agricole ne pouvait légalement être réalisé dans le périmètre du Marais Poitevin. Or, 29 bassines de la Vendée et des Deux-Sèvres ont quand même été remplies. Comment, Julien, est-ce qu'on explique ces actes délibérés, illégaux ? Est-ce qu'ils demeurent vraiment impunis d'ailleurs ? Ou est-ce que c'est que les sanctions sont dérisoires pour les auteurs ?
Je crois que les extraits que vous passez sont édifiants. La prise de parole de Darmanin, elle est à proprement parler scandaleuse. Et on parle bien de fait d'une extrême gravité où des vies humaines sont mises en danger. Et il y a un laisser-faire large de la part des autorités. Moi, je parle même de complicité. On sait également par expérience et par retour de terrain que, par exemple, quand il s'agit d'aller déverser du fumier devant des permanences de députés ou devant les préfectures, en fait, c'est des actions qui sont co-construites entre les services préfectoraux et les syndicats de la FNSEA. On s'entend sur « mais qu'est-ce que vous allez mettre dans la benne et à quelle heure vous passez ?» Et s'il s'agit de l'illustrer, c'est que ces différents convois, ils sont escortés, à proprement parler, par les forces de l'ordre. Et là-dessus, j'invite les citoyennes et citoyens à aller voir simplement les images. On voit que les forces de l'ordre laissent faire. C'est quasiment un comité d'accueil. Et ça, c'est insupportable. Ça, c'est insupportable parce que quand il s'agit de s'en prendre à des biens, c'est une chose. Quand il s'agit ensuite de s'en prendre à des personnes et d'agresser des militants, là, le fait que toutes les plaintes qu'on peut déposer soient classées sans suite, ça, c'est gravissime. Et je ne vais pas faire la liste exhaustive de toutes les violences physiques dont on a fait l'objet, mais je vais quand même rappeler que, par exemple, Jean-Jacques, qui est un militant historique, un ancien maire, quand il se fait attraper lors d'une manifestation par une trentaine de membres de la coordination rurale largement alcoolisés et qu'ils le mettent au-dessus d'un parapet à 6 mètres de haut au-dessus d'une nationale, ça fait l'objet d'une plainte. Il n'y a pas de suite. Quand mon neveu se fait agresser à son domicile par deux loulous qui lui tombent dessus la nuit et le tabassent devant son domicile alors qu'il revient d'un footing en lui disant tiens, il est bien malin l'antibassine. C'est clairement une attaque politique et qu'il n'y a pas de suite. C'est une catastrophe. Quand on a les quatre camarades grièvement blessés lors de Sainte-Soline qui portent plainte au parquet et que l'enquête du litige GN, depuis un an et demi, il n'y a rien qui sort. C'est gravissime. Quand lors de la mobilisation, le 18, où des camarades vont fêter la décision et pénètrent sur la bassine, il n'y a aucune atteinte au bien, il n'y a aucune dégradation. Et au moment de repartir, ils sont pris en embuscade par une vingtaine d'exploitants qui bloquent la route avec des tracteurs. Et les forces de l'ordre ne sont pas là pour s'interposer tout de suite. Elles nous nassent, elles sont derrière. Il va falloir attendre 5 minutes pour qu'elles puissent revenir au contact, pour que la bagarre cesse. Tout ça est très... c'est dégoûtant, c'est gerbant, c'est à vomir, et c'est dangereux, parce que derrière, ce que ça génère chez ceux qui commettent ces actes-là, c'est des sentiments d'impunité totale. Et l'État ne tient pas son rôle, qui devrait être, je le répète, celui de représenter l'intérêt général et de respecter la loi, quels que soient les partis, ce deux poids, deux mesures, c'est lui qui risque de générer des tensions encore plus fortes, avec cette fois-ci des risques pour l'intégrité d'individus. Et c'est grave.
Merci Julien. On a beaucoup parlé dans cette émission de justice et du volet juridique de la lutte suite à la décision du 18 décembre. Pour finir, on sait que la lutte contre les bassines, elle se mène sur une multitude de plans et de stratégies qui sont complémentaires les unes des autres. Est-ce que tu veux nous en parler un peu et nous parler des perspectives pour la lutte dans les mois à venir ? Et peut-être notamment aussi du volet internationaliste que je trouve intéressant dans cette lutte, qui est cette de tisser des liens avec voilà, des luttes à travers l'Europe ou le monde.
Oui, là encore, il y aurait beaucoup à dire. Déjà, le premier message, qu'il n'y a aucune ambiguïté, la lutte, elle est loin d'être finie. Et si là, il y a une victoire d'étape, on appelle celles et ceux qui suivent cette lutte et qui sont venus au manif ou qui hésitent à y venir, à bah, surtout pas lâcher. Si là, on gagne un délai et on gagne du temps, et puis que l'on sait que le temps joue pour nous, on ne se démobilise pas, tout au contraire, on va dans les semaines qui viennent lancer de nouveaux appels à mobilisation sous plein de formes différentes. Vous abordiez la question de la diversité des moyens d'action et de la complémentarité des moyens de lutte. Je pense que c'est notre lutte, elle est assez exemplaire à ce niveau-là, dans le sens où justement, elle ne fédère pas que des militants écolos historiques ou des associations de protection de la nature, mais elle déborde largement. Il y a de nombreux syndicats, il y a des syndicats d'ouvriers comme la CGT ou le Sud Solidaire qui sont partie prenante activement de cette lutte. On a des syndicats agricoles comme la Confédération Paysanne ou le MODEF qui prennent une part active également dans la lutte. Et puis également tout un tas de collectifs plus ou moins informels, de gens qui vont se regrouper, qui vont agir de manière plus autonome, qui vont aussi agir. Et en fait, ce qu'on partage aujourd'hui, et ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années, c'est le fait de se dire que tous les moyens sont bons pour lutter contre ces rouleaux compresseurs. Alors, le cadre général, et je l'ai donné tout à l'heure, c'est qu'on ne s'en prend pas aux individus. Et que donc, c'est en ça où nous ne sommes pas des mouvements violents. La violence, elle est définie en droit comme tout acte qui s'en prend à un être vivant. Donc, la violence, elle va s'appliquer, par exemple, à l'ensemble du vivant. Quand on s'en prend à des biens, à plus forte mesure, quand on s'aperçoit que ces biens sont illégaux, type la bassine de Sainte-Soline, eh bien, on est dans la détérioration de biens, dans la dégradation, mais en aucun cas dans la violence. Nous, on va beaucoup plus volontairement parler de désarmement ou de renaturation quand on agit sur une bassine comme celle de la ZAD des Roches qui sont déclarées illégales depuis 10 ans et que malgré tout elles continuent à tourner. À un moment, la seule solution qu'on voit pour que concrètement elles arrêtent d'être utilisées et que l'eau soit pillée, bah, c'est de les débâcher. Et donc ça donnera des mobilisations comme on avait tenu au mois d'octobre 2021 où on rentre à 3000 sur une bassine et en un temps record, on fait réapparaître le sol sous la bâche. Cette diversité des tactiques, elle est fondamentale. Et on a bien vu, là, ben, ça a été l'épisode des associations de protection de la nature qui ont cette manière de lutter aussi, en complément de tous les inventaires naturalistes qui vont pouvoir faire d'une grande connaissance des territoires, ben, vont activer les leviers juridiques. Mais on sait aussi que ces leviers juridiques, s'ils ne sont pas accompagnés d'une mobilisation et d'une pression citoyenne massive, elles peuvent aussi ne pas être suivies d'effet. Donc, il faut se battre sur tous les champs, quand on est face à des logiques et à des lobbies aussi importants, avec un soutien des gouvernements aussi important, eh bien, il faut qu'on fasse preuve d'imagination, il faut aussi qu'on fasse preuve de tolérance, et que si, sur certains cas, on n'est pas OK avec le type d'action, on n'y participe pas. Mais par contre, on ne vient pas critiquer s'il y a, par exemple, des camarades qui se sentent d'intervenir de nuit pour aller faire du désarmement. Bah, peut-être qu'il y a des gens qui ne cautionnent pas ou qui ne sentent pas d'aller désarmer, bah, on ne va pas aller dire que c'est malvenu. C'est un moyen d'action parmi d'autres.
On comprend bien, la complémentarité. On comprend bien aussi que la lutte anti-bassine n'est pas finie. On arrive malheureusement déjà au terme de cette émission. On espère que ça vous a intéressé. Merci encore, Julien Leguet, d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi, Anaïs, pour l'aide à la préparation et à l'animation de cette émission. La lutte contre les bassines n'est donc pas terminée et on va bien sûr rester alerte sur la suite de ce dossier parce que c'est un sujet crucial pour notre territoire et pas que. N'hésitez pas à nous écrire pour réagir, nous poser des questions, proposer des sujets à l'adresse débordement au pluriel @radio-pulsar.org. Débordement, c'est tous les deuxièmes samedis du mois sur Radio Pulsar à 11h et en podcast sur le site de Radio Pulsar et sur toutes les plateformes d'écoute. Merci de nous avoir écoutés, bon week-end à toutes et à tous et au mois prochain.
Un grand merci à vous tous. Nos bonnes caranes.